Je vous ai fait un arbre à l'envers parce que finalement toutes les formes du bouddhisme viennent des trois joyaux, viennent de Bouddha, Dharma, Sangha. Elles ont leur, c'est un arbre qui a des racines dans le plus élevé, dans le transcendantal. Les formes du bouddhisme sont, disons, l'inconditionné rencontrant les besoins du conditionné, des conditions de l'époque, des conditions d'un certain peuple. C'est pour ça qu'il prend ses formes différentes. Donc au début, on avait Bouddha, son enseignement, le Sangha, les enseignements de l'éthique, de la méditation et de la sagesse. La première forme du bouddhisme, pendant les 500 premières années de développement, a été ce qu'on appelle le bouddhisme Hinayana, avec tout un tas d'écoles, mais la seule qui survive, c'est celle du Theravada. Bien développé Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos. Ces caractéristiques, c'est l'importance de la vie du moine, de la vie monacale. Les laïcs sont là plutôt pour soutenir la communauté des moines. L'importance, oui, du retrait de la société, de l'étude des textes, du détachement, pratique de la prise de conscience et non-violence aussi. Donc ça, c'est les 500 premières années de développement du bouddhisme. Mais elle était devenue un peu individuelle. Le moine était considéré par sa propre libération de la souffrance. C'était devenu un peu rigide. Il y avait une insistance sur les règles. Et le formalisme, énormément de règles, les 256 règles de la vie du moine qui lui règlent son existence juste dans les tout petits... Donc, on avait commencé à prendre ce qui était une voie vers l'éveil, on l'a pris en une fin en soi, et ça commençait à perdre son esprit. Je ne dis pas dans tout le monde, dans tous, mais ça, c'est, si vous voulez, c'est le poids de la vie conditionnée. Éthique, méditation, sagesse, pratiquée par des cœurs qui sont toujours pris par l'avidité, la haine et l'ignorance, et donc remuent des pratiques, approprient des pratiques, détournent des pratiques qui au début menaient à l'éveil pour en faire, c'est pas si mal une ville moine finalement, hein, on est au chaud, on apprend, on a une éducation, on a un statut dans le village, vous voyez. Donc il commençait à y avoir des signes de dégénérescence. Et poussé tout un autre mouvement, le mouvement du Mahayana, où grand Yana veut dire véhicule, Hina veut dire petit. Ben, ça, inutile de dire, c'est Mahayana qui veut dire grand, qui a donné ce titre au Hinayana. Eux, ils ne croient pas qu'ils sont le petit véhicule. Moi non plus d'ailleurs. Il est possible d'atteindre l'éveil de cette façon-là. Toutes ces voies pratiquées dans leur esprit mènent à l'éveil. Mais enfin, Mahayana voulait corriger les défauts que Hinayana commençait à apprendre. Surtout, pour eux, ils voulaient rester fidèles non seulement à l'enseignement du Bouddha, mais à sa vie. Et le Bouddha, il a passé 45 ans à enseigner. Donc, développe énormément le côté altruiste du bouddhisme. Atteindre l'éveil non seulement pour soi, mais pour le bien de tous les êtres. Il développe énormément l'idée de vacuité. C'est difficile, on part un peu dans la métaphysique. Mais il développe... Le Hinayana était tombé dans l'erreur d'un pluralisme. Ils avaient fait quand même de la réalité. Il y avait des choses qui existaient. Il y avait comme des atomes, on ne pouvait pas aller plus loin. Hinayana dit non, pas besoin d'avoir quoi que ce soit qui existe de façon qui perdure. Il n'y a qu'un flot, toute la réalité est dynamique. Donc ça développe bien l'idée de vacuité, le côté métaphysique l'emmène plus loin que le Hinayana et toute la dimension altruiste. Je dis, il y a des branches là qui s'emparent parce qu'il y a tout un tas d'écoles et de sous-écoles. La tradition zen ou chan, c'est le bouddhisme Mahayana qui rencontre la Chine. Ça, c'est en Inde. Hein. un bouddhiste Mahayana en Inde qui rencontre la Chine, et c'est... Les Chinois sont bien différents des Indiens, les Japonais aussi, et ils en ont fait quelque chose de tout à fait différent dans la forme, pas dans l'esprit. Ils développent énormément la méditation, pas d'études de texte, aller au-delà des textes, directement à la nature, notre nature de Bouddha en nous. Donc développer un certain aspect des enseignements du Bouddha. Ou le bouddhisme de la terre pure, c'est la voie de la foi. La foi que nous sommes déjà Bouddha. Il y a beaucoup de rituels, beaucoup de chants de mantras. Tout ça, ça correspond à des besoins différents. À des gens pour qui la méditation est trop difficile, l'étude des textes est trop difficile, leur cœur est simple, ils ont besoin d'atteindre la bouddhéité à travers le côté émotionnel. C'est possible aussi. Tout ça, ça mène au Bouddha Dharma Sangha. Via développement. Et il y a beaucoup d'ententes entre les deux. Il y a des rivalités aussi, mais il y a une entente aussi. Des moines qui, au début, dans les monastères, qui étaient aussi bien d'une tendance que de l'autre. Troisième développement, ça c'est à peu près 1000 ans après l'âge du Bouddha, le dernier développement du bouddhisme, la voie du Vajra, Vajrayana. Vajra veut dire réalité. J'ai oublié de dire que chaque école inclut Mahayana, embrasse Hinayana et l'emmène plus loin. Il dit oui, c'est d'accord, vos principes, c'est d'accord. Mais, vous les avez détournés, mais il n'y a pas le côté altruiste du bouddhisme. Vajrayana inclut ce que disent les précédentes écoles. Au point de vue métaphysique, il n'emmène pas plus loin, inclut la pratique de l'éthique, tout. Mais l'emmène plus loin, c'est tout le monde des symbolismes et des rituels. Vajrayana veut amener tout dans notre expérience maintenant. Pour vous donner un exemple, il dit le Bouddha, le Bouddha, il y a plus de 1000 ans, qu'est-ce que c'est que le Bouddha dans notre expérience, hein? Le Bouddha dans notre expérience, c'est le gourou. Comment est-ce qu'on peut faire l'expérience du Bouddha? C'est à travers le maître spirituel. C'est lui le Bouddha pour nous maintenant. Vous voyez? Enlever la réalité, la Mahayana s'était perdue un petit peu dans ses floraisons métaphysiques. Vajrayana y ramène ici, maintenant, à travers le monde des rituels et des symboles. Tout est la réalité pour le Vajra, pour la voie du Vajra. Cette chaise doit pouvoir atteindre la réalité en passant à travers cette chaise. À travers la compréhension de cette chaîne. Ça y ramène sur Terre, ici, maintenant. Bien développé par le bouddhisme tibétain. Ce ne sont pas les seuls. Le Vajrayana au Japon, en Inde, il est né en Inde aussi. Mais c'est, si vous voulez, plus le domaine ici du bouddhisme tibétain. Bien, bien différent de ces tendances-là. Toutes ces tendances sont nées de maîtres spirituels qui eux-mêmes avaient atteint l'éveil. Et qui étaient dans des conditions différentes et qui savaient comment communiquer cet éveil pour les peuples qui les entouraient, pour les besoins de l'époque, les gens qui les entouraient. Le dernier, là, c'est juste un petit bout, ce que j'appelle Triyana, Troyana ou bouddhisme occidental, auquel nous, les amis de l'ordre bouddhiste occidental, essayent de participer à ce mouvement. Là, c'est moi qui le mets. Je ne sais pas si des autres traditions voudraient la considérer, cette branche. Au début, le bouddhisme a touché l'Occident à travers des maîtres orientaux, à travers des maîtres tibétains, laotiens, etc., qui enseignaient selon leur tradition. Maintenant, on en est à une deuxième génération. Ils ont, quand je pensais enseignants rencontrés en tant qu'enseignants du Dharma, on était tous entre occidentaux. On avait invité les Asiatiques qui ne sont pas venus. C'est intéressant de voir que peut-être ça ne fait pas partie de leur tradition, ces grandes réunions entre intertraditionnels. Aucun maître asiatique n'est venu. Les Occidentaux sont venus. Et on voit bien que chaque Occidental, même si eux-mêmes sont les héritiers d'une tradition Hinayana, Mahayana ou Vajrayana, commence à faire passer cette tradition en des termes qui ne sont pas japonais. Ni laotien. les sculptures commencent à être occidentales. Il peut y avoir des... C'est l'éveil qui passe à travers des maîtres occidentaux, même s'ils viennent de ces traditions-là. Ces traditions, peu à peu, vont être communiquées de façon différente. Leur esprit va peut-être toujours rester le même, mais leur forme va varier. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il y a, commence à y avoir une autre branche. Certainement une branche auquel nous essayons de participer. Toutes, voyez, viennent du tronc. Aucune ne coupe l'autre. Hein, de dire non, non, moi, eux, oui, mais oh, non. Toutes, elles embrassent ce qui vient d'avant et elles l'emmènent plus loin. Pour que la fleur du bouddhisme, l'arbre du bouddhisme continue à être un moyen effectif d'emmener les gens à l'éveil. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'être Hinayana, Mahayana, Vajrayana, de pratiquer tibétain, zen, ou tout un tas de beaux mots qui sont à la mode. L'essentiel, c'est de s'éveiller.